Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h33, on ouvre le débat de nos grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Louis Alter, bonsoir. Louis Alter, journaliste politique à Marianne.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Pascal Fogam, directeur adjoint de la rédaction de l'Express.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir et merci à tous les trois de m'accompagner ce soir. Alors depuis hier, on est donc fixé sur le fameux plan de déconfinement en 4 étapes qui va progressivement nous permettre de retrouver une vie un peu plus normale, en tout cas au moins d'avoir un horizon un peu plus dégagé. On a entendu des témoignages sur Europe 1 aussi bien des Français qui se voient déjà en terrasse que des restaurateurs, des commerçants, des cinémas. Il y a une certaine euphorie, mais est-ce qu'on a raison de s'emballer? Plus de 26 000 contaminations hier, 5 800 patients encore en réanimation et des médecins très inquiets, des épidémiologistes aussi, à l'image de Mircea Sofona qui était l'invité d'Europe 1 ce matin.
Le risque avec une reprise trop rapide des activités sociales, c'est que la diminution soit vraiment très lente en termes d'incidence et donc d'hospitalisation, d'admission en soins critiques, et donc finalement que la baisse prenne des semaines. Cette reprise, elle s'accompagne d'un enthousiasme collectif qui est tout à fait compréhensible. Le risque, c'est que l'épidémie ne baisse pas suffisamment. Dans le pire des cas, elle pourrait même remonter.
Alors c'est nécessaire bien sûr d'offrir un horizon aux Français, mais au vu des chiffres sanitaires, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas un peu précipité les choses, Pascal Fogam ?
C'est l'arbitrage que l'on connaît depuis plus d'un an maintenant, entre sanitaire et économique. Selon les moments, l'exécutif est obligé de faire des choix, critiqué aujourd'hui par le monde médical qui juge le déconfinement prématuré, irresponsable pour certains, infondé. Et puis vous avez en face le monde économique qui se réjouit d'avoir enfin de la visibilité, des étapes clairement annoncées, affichées, qui permettent aux différents protagonistes de se préparer. Donc oui, c'est sans doute compliqué. On est sur un fil, comme on l'est depuis des mois. Le pari, il est toujours le même, même si Emmanuel Macron n'aime pas ce mot. C'est de miser sur la montée en puissance de la vaccination et une immunité collective qui, progressivement, nous permettra de reprendre une vie normale.
Oui, mais en décembre dernier, l'exécutif avait fixé comme condition de déconfinement la fameuse barre des 5000 cas par jour qui n'a finalement jamais été atteinte. Aujourd'hui, on est 5 fois au-dessus de cette jauge. Qu'est-ce qui a changé depuis décembre dans la tête du président Bruno Jeudy ?
Ce qui a changé, deux choses. C'est vrai que nous sommes à un niveau de contamination et même de taux d'incidence qui pousserait certains pays à confiner à ce niveau-là. C'est tout le paradoxe. Ce qui a changé par rapport au mois de novembre, lorsque le président déconfine, peut-être un peu trop tôt d'ailleurs à l'époque, puisque nous n'atteindrons jamais la barre des 5000 cas de contamination. De la même manière, nous n'atteindrons jamais les 2500. On est descendu sous les 3000 patients en réa, mais jamais à 2500. Nous sommes descendus au maximum début janvier à 2600. Ce qui a changé, c'est que il y a la vaccination. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le tempo et le rythme de vaccination permet de dire, en tous les cas au président de la République, que les 20 millions seront atteints au 15 mai, les 30 millions probablement à la mi-juin, sauf vraiment catastrophe en termes d'approvisionnement. Et on voit bien que tout est mis en œuvre pour essayer d'accélérer cette campagne vaccinale, même si, évidemment, ce ne sera jamais assez rapide. Les Français, on voit, sont pressés d'être vaccinés. Et sans doute qu'à l'été, le pari présidentiel sera tenu. Donc ça, c'est un des éléments qui fait qu'il ne veut plus être sur les mêmes critères pour fixer le déconfinement qu'il avait retenu à l'hiver 2020. Mais les nouveaux critères sont différents. Et puis je pense qu'il fait la balance coût social, bénéfice sanitaire, qui fait qu'aujourd'hui, en faisant la part des choses entre ces deux aspects de l'équation, ça lui permet de penser que même à un niveau assez élevé de taux d'incidence de 300 en moyenne sur l'ensemble de la France, c'est pas la peine d'infliger un confinement plus long aux Français, et que avec ce calendrier assez lent, assez prudent, je trouve, il est possible peut-être de sortir. En gros, il y a un mois à tenir encore très dur dans les hôpitaux, c'est le calcul que fait le président de la République, et ensuite on pourra normalement sortir de cette situation compliquée, avec une inconnue dans cette équation, c'est qu'en ne vaccinant pas suffisamment vite,
on
s'expose au risque d'apparition de nouveaux variants. Si on prend l'expérience israélienne, ils ont vacciné très très vite pour éviter qu'un variant vienne mettre à bas leur stratégie sanitaire. Et nous, le problème, c'est que c'est un peu la même stratégie qu'on voudrait employer, sauf qu'on n'est pas en mesure de vacciner plus rapidement.
On va revenir parce que ça commence quand même à bouger. Vous parliez d'un calendrier prudent, Bruno, jeudi. Emmanuel Macron, il a prévenu, il pourra actionner des freins d'urgence. Hein. Donc concrètement, à tout moment, on pourra annuler les allègements de restrictions, peut-être à chaque étape du calendrier. Enfin, c'est ce qu'on comprend, en tout cas, dans les territoires particulièrement touchés. C'est un filet de sécurité, finalement, Louis Alter, qui va permettre au président d'ajuster au cas par cas, sans avoir pour autant à se dédire, sans revenir sur sa stratégie.
Oui, c'est important, c'est tout pareil, sauf que le problème, c'est que les gens ont quand même entendu qu'on allait être libérés. Progressivement, certes, prudemment, certes, par étapes, certes, mais ce qu'on a entendu quand même dans cette interview, c'est ce qu'on voulait tous entendre quelque part, qui est que les restrictions allaient prendre progressivement fin. Et Emmanuel Macron est allé jusqu'à donner quelque part une échéance de sortie presque totale de crise en disant que quasiment toutes les restrictions seraient levées le 30 juin. C'est dans pas si longtemps, à l'échelle de cette épidémie qui a commencé vraiment en février-mars 2020, de dire que dans deux mois, en fait, on aura retrouvé notre vie pas plus normale, mais presque normale, en fait, dans son sens le plus entier. Donc, je pense qu'il sera rattrapé quand même par un effet de déception s'il doit dire, dans certains territoires, et vu ce que disent les épidémiologistes, ça devrait arriver, s'il devait activer ces fameuses mesures de freinage dans certains territoires, d'autant qu'on ne sait pas exactement en quoi elles consisteront.
Alors, il dit qu'il y a quand même trois critères qui sont fixés pour ces freins
exactement,
de sécurité.
Ça permet d'objectiver
les choses. Des services de réanimation bientôt saturés, un taux d'incidence supérieur à 400 pour 100 000 habitants, une augmentation brutale de ce taux. Mais alors, si ça devait se produire, le gouvernement il devrait contacter les préfets, les collectivités, pour bloquer effectivement les réouvertures. Ce serait une forme de territorialisation, finalement, qui ne dit pas son nom, Pascal Pogam.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est une adaptation aux situations locales, pour être au plus près et permettre de réagir le plus vite possible. Territorialisation, je vais y arriver, qui ne dit pas son nom, alors que les annonces, pour le coup, sont à échelle nationale, alors qu'on s'attendait à des annonces plus différenciées jusque-là. Le fait de communiquer comme il l'a fait, comme le président l'a fait ce matin dans la presse régionale, et d'appliquer des règles à tout le monde, a pu surprendre. Et ces critères d'ajustement locaux, je pense, donnent la souplesse nécessaire dans le cas d'une apparition de nouveaux variants. On voit que 5 cas, je crois, oui, de variants indiens ont été identifiés en France. Il faut se préparer à l'apparition de ces variants-là. Mais en tout cas, on a ces soupapes-là qui permettent d'ajuster le dispositif en cas de besoin.
Mais ces freins d'urgence sanitaire, ça existe notamment en Allemagne, sauf qu'ils sont activés beaucoup plus rapidement que chez nous. Dès que le taux d'incidence est supérieur à 100 pour 3 jours d'affilée, nous c'est 400, l'Italie déconfine à 150, l'Espagne à 125. Ouvrir avec un tel niveau de circulation du virus, c'est quand même un risque que connaît, qu'assume le chef de l'État, Bruno.
Absolument,
je dis, hein.
Il l'assume de plus en plus ouvertement et cette interview le prouve. On a fait un choix, on a fait un changement de doctrine radical à la fin de l'année dernière, lorsque le président a décidé d'abandonner justement ces critères de déconfinement. Le critère que vous rappeliez de 5000 cas de contamination et le critère du nombre de patients en lit de réanimation. Au fond, le changement de doctrine, il intervient à ce moment-là. Et depuis, on a fait le choix. Alors, d'abord le président de la République, mais j'allais dire, quand on regarde les sondages, une partie des Français, sans le dire comme ça, sans même le réaliser, ont accepté le fait d'avoir une espèce de système de couvre-feu, de confinement à la française, qui est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus souple, et qui fait qu'on a vécu avec un haut niveau, finalement, de personnes, de taux d'incidence, de cas de contamination, et le refus, finalement, d'être dans un yo-yo à l'italienne, par exemple, qui a confiné, déconfiné à plusieurs reprises. C'est une autre stratégie.
Mais
par
les médecins disent qu'on ne survivra pas, qu'ils ne survivront pas à une quatrième vague.
C'est une stratégie qui ne plaît pas aux médecins, vous avez raison, puisqu'on voit bien, alors là, pour le coup, depuis le 29 janvier, il y a eu une rupture avec un fossé qui n'a cessé de s'agrandir entre le président et les médecins et professeurs et scientifiques qui le conseillent ou pas, ou qu'on voit dans les médias jour après jour, en gros, expliquer que c'est une stratégie qui est trop dangereuse et qui fait qu'il y a le risque de faire imploser le système hospitalier. C'est ça le grand risque dans cette affaire. À 6000 personnes en réanimation, c'est très très élevé.
Ils sont dans leur rôle, les médecins, évidemment, Louis Alter, de nous dire ça.
Oui, bien sûr. Après, là, on parle d'épidémiologistes, de gens qui sont en service de réanimation, donc qui gèrent la saturation au quotidien. Je suis pas sûr qu'un psychiatre, par exemple, plaiderait pour que le confinement se perpétue. Vous voyez, il y a différents types de médecins, et puis il y a différents types de mots. Et je pense que Emmanuel Macron, depuis l'automne dernier, je dirais, et en fait, a voulu sortir de la pensée unique épidémiologiste, c'est-à-dire de diriger la politique du pays uniquement en regardant les courbes de saturation en réanimation, qui sont très importantes bien sûr, mais il a sans aucun doute des remontées, mais on en a tous, on les a documentées d'ailleurs en tant que journaliste, des remontées de signaux faibles des ravages que fait cette épidémie en termes psychiatriques, en termes économiques, en termes sociaux, en termes de violence. Je pense qu'il en tient compte maintenant, beaucoup plus qu'il y a un an quand un confinement très strict pouvait tenir pendant 3 mois parce qu'on était sous un effet de sidération, et que c'est le sens du risque qu'il a voulu prendre. Je suis étonné par contre qu'il ne sait pas, que Macron ne soit pas emparé d'une sorte de symbole, c'est très symbolique, mais d'un symbole de sortie de crise qui est le sujet du port du masque en extérieur. Parce qu'il y a même des épidémiologistes qui expliquent aujourd'hui que
ça
ne sert
rien dehors. Ouais.
Voilà, en fait, aucune étude n'a montré pour l'instant qu'on se contaminait beaucoup dehors. Alors, je ne parle pas des cas où il y a des foules, où on est tous en terrasse à l'extérieur, mais c'est quand même un sujet qui est en train de monter dans le débat public, sur lesquels, effectivement, les épidémiologistes sont divisés et qui ne coûte pas cher politiquement. C'est-à-dire que dire on va enlever le masque, sauf dans les cas où on est tous massés les uns sur les autres, ça pourrait être. Rien que symboliquement, rien que se voir nos visages en fait dans la rue, ça donne quand même une idée de ce qu'est la lumière au bout du tunnel. Et ce n'est pas très risqué, visiblement. Et Macron n'en a pas dit un mot dans sa longue interview à la presse régionale, donc il ne s'est pas encore emparé du sujet. Peut-être que ça va remonter à l'Élysée un de ces jours.
Il a dit beaucoup d'autres choses, on va y revenir dans un tout petit instant. Ensemble, les grandes voix, on va notamment parler évidemment de la vaccination, puisque Bruno Jeudy commençait à l'évoquer. C'est vraiment la clé de cette sortie de crise. À tout de suite. 18h46, suite de votre débat des grandes voix du vendredi sur Europe 1. On continue de parler de cette sortie de crise, ou en tout cas de ce déconfinement par étapes annoncé hier par Emmanuel Macron. Toujours avec moi, Pascal Pogam, directeur adjoint de la rédaction de l'Express, Louis Osalter, journaliste politique à Marianne, et Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Alors, le ministre de la Santé a annoncé ce matin que la vaccination allait s'élargir dès demain. Le Premier ministre avait déjà évoqué le cas des adultes obèses. Et bien, cette fois, 4 millions de Français fragiles, majeurs, sont désormais éligibles à la vaccination.
L'obésité est la première maladie chronique ou le premier facteur de risque en dehors de l'âge qui expose aux formes graves. Mais nous ouvrons évidemment la vaccination également aux gens qui présentent des comorbidités comme de l'hypertension, du diabète, de l'insuffisance rénale, cardiaque ou des cancers. Nous élargissons la vaccination à quelques 4 millions de Français fragiles.
Le ministre de la Santé chez nos confrères de France Info ce matin, alors ouvrir la vaccination aux personnes fragiles. Il était temps, Pascal Pogam.
Oui, il était temps. Comme vous le disiez, la vaccination, c'est vraiment la clé de voûte de tout le dispositif, de tout le raisonnement de l'exécutif. De ce point de vue-là, le fait qu'on sente bien que l'objectif des 20 millions de personnes vaccinées le 15 mai, 30 millions le 30 juin, cet objectif-là soit à portée de main, en tout cas c'est ce que montrent les chiffres aujourd'hui, c'est ça la grande bonne nouvelle pour l'exécutif. C'est ce qui valide les choix et cette volonté d'ouvrir progressivement dans le mois qui vient.
À des personnes, par exemple, qui ont de l'hypertension, du diabète, de l'insuffisance rénale, qui ont des cancers, des apnées du sommeil
C'était essentiel, et je crois au-delà, l'horizon qui est donné au mois de juin avec la possibilité de se faire vacciner à partir de 18 ans, là aussi, Louis parlait de symbole tout à l'heure à propos du masque, ça je crois que c'est un symbole très très important aussi. On a vu la réaction autour de nous, quand on a appris qu'aux États-Unis, cette vaccination était rendue possible pour tous les adultes au-delà de 18 ans il y a quelques semaines. Ça faisait, pour nous en France qui étions en plein confinement, c'était quelque chose de très dur à entendre. Et bien ce genre de perspective, c'est ce qui nous permet de nous projeter dans du positif enfin. Donc oui, la vaccination est un élément essentiel de ce point de vue-là.
Et alors l'info de l'après-midi, c'est que l'on n'aura pas besoin d'ordonnance pour prouver qu'on a une comorbidité. Ça veut dire que l'accès au vaccin, il se fera sur le régime de la déclaration, sur la base de la confiance. N'importe qui pourra dire j'ai des problèmes cardiaques ou je suis traité pour un cancer. Est-ce que ça ne risque pas de créer un appel d'air, Bruno Jeudy, qui est peut-être souhaitable d'ailleurs
Ah mais je crois que le président de la République, dans la lignée de ce qu'il... De son interview dans la presse quotidienne régionale, veut absolument tout faire pour accélérer le rythme de la campagne vaccinale. Il pense que ça ne va pas assez vite encore aujourd'hui. À l'Élysée, il s'inquiète un petit peu de la quinzaine qui arrive avec des jours fériés qui risquent de ralentir aussi parce qu'on sait qu'on vaccine moins le dimanche, qu'on vaccine moins les jours fériés,
Mais ça veut dire qu'en fait, on ouvre à tout le monde sans le dire clairement.
En tous les cas, c'est élargir au maximum, continuer à respecter les critères d'âge, parce qu'ils restent quand même sur cette doctrine-là, parce que les critères d'âge ont montré de l'efficacité, en ayant commencé par les plus anciens, en ayant commencé par ceux qui sont dans les EHPAD, on a quand même fait, réduit le risque d'avoir encore plus d'emboliser encore un peu plus les services de réa. Ça, ça fonctionne, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont sous cette double pression, à la fois de finir de vacciner les plus de 75 ans, il y en a encore quand même pas mal qui sont pas vaccinés, et puis la pression des plus jeunes, c'est-à-dire, j'allais dire, les moins de 55 ans, moins de 50 ans, qui veulent se faire vacciner, on le voit bien, qui essaient par tous les moyens, et après tout, pourquoi pas, même si aujourd'hui ils ne sont pas éligibles, de se faire vacciner. Donc il y a cette double pression qui met l'exécutif à l'épreuve, parce que les gens veulent se faire vacciner. Et moi, je crois que la question de l'AstraZeneca, à mon avis, va plutôt se dissiper. C'est-à-dire, les gens vont vouloir se faire
même avec AstraZeneca. Oui, alors justement, Olivier Véran, il a indiqué qu'il avait saisi la Haute Autorité de Santé pour étudier la possibilité de permettre à tous les volontaires, quel que soit leur âge, de se faire vacciner à l'AstraZeneca en leur expliquant les risques et en leur faisant signer une décharge. Est-ce que laisser la liberté du choix comme ça aux Français, ce serait une bonne idée, sachant que le vaccin AstraZeneca aujourd'hui n'est plus administré aux moins de 55 ans en France au vu d'éventuels risques de thrombose. C'est quand même une bonne idée de leur dire, bah, écoutez, vous voulez y aller, vous nous signez une décharge et ça sera bon.
C'est basé sur la responsabilité individuelle. Après, ça ne rehaussera pas forcément la réputation d'AstraZeneca, parce que l'image que confirme cette déclaration, c'est de dire bah, y a le vaccin qui est quand même, bon, il est bien, mais il est quand même un peu moins bien que tous les autres. Donc ça c'est bon. Pour l'image du vaccin, je ne sais pas si c'est bon. En revanche, sur l'élargissement de la vaccination, c'est vrai que l'annonce d'Olivier Véran puis celle d'Emmanuel Macron sur la date d'ouverture de la vaccination à tous les adultes, ça aura le mérite de clarifier des règles qui étaient devenues incompréhensibles, en fait, parce que autant au début, le calendrier était clair, on avait bien compris que personne ne pouvait se faire vacciner à part les résidents des EHPAD. Ensuite, c'était des limites d'âge inférieures. Ensuite, c'était des professions prioritaires, mais du coup, pourquoi telle profession était prioritaire plutôt que celle-là ? Ensuite, c'était les plus de 55 ans, mais alors uniquement avec l'AstraZeneca. Bref,
on a quand même... Oui, c'est vrai qu'on avait beaucoup de mal à s'y retrouver.
On a empilé les règles parce que il y avait une volonté d'avoir un effet d'annonce tous les jours, voire toutes les heures. Sur
même
le
nous,
côté,
ici,
regardez...
Europe 1, on faisait des papiers explicatifs. Voilà, alors, redites-nous plus de 55 ans.
Pour expliquer auprès à vos auditeurs la pédagogie du gouvernement sur les nouveaux critères grâce auxquels on peut ou pas se faire vacciner, c'était devenu compliqué. D'autant, et c'était une des polémiques de cette semaine, qu'il y a des doses qui ne trouvent pas preneur dans certains centres de vaccination et que des médecins cherchent des patients à qui administrer leur dose. Donc, ça a le mérite de simplifier un peu les critères et d'envoyer un message général qui est de, bah voilà, si vraiment vous avez envie d'aller vous faire vacciner, allez vous faire vacciner et on ne va pas mettre un frein à ceux qui sont en danger, plus vulnérables que d'autres et qui en plus sont très motivés pour avoir une dose à laquelle ils n'ont pas accès jusqu'ici. Après, évidemment, tout ça est tributaire de deux choses. Le calendrier des livraisons dont on a beaucoup parlé depuis plusieurs semaines et qui a été problématique au niveau européen. Et puis l'intendance, la logistique.
Oui,
quand
c'est
même
ça. Est-ce qu'il y a un risque
français
de cohue? Alors comment on va faire?
Oui, alors il y a ça.
Si tout le monde
exactement.
Y va demain,
est-ce qu'on arrive à flécher les populations sur le bon centre de vaccination? Est-ce que le centre de vaccination d'à côté qui a trop de doses, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui fait la queue devant? Voilà, cette espèce de péché français de la logistique, de l'intendance qu'on méprise un peu. On a vu qu'il ne fallait pas le mépriser, surtout quand on connaît des crises telles que celle-là. Et ce sera un des défis quand de plus en plus de personnes se
pointeront
devant des centres de vaccination.
On suivra ça, évidemment. Je voudrais qu'on revienne aussi sur l'annonce concernant la création d'un pass sanitaire qui permettra à partir du mois de juin d'accéder aux lieux où se brassent les foules, comme les stades, les festivals, les foires qui devraient rouvrir. Il sera aussi requis pour voyager vers l'outre-mer et vers l'étranger. Pass qui permettra de prouver qu'on est complètement vacciné ou qu'on a un test PCR négatif de moins de 48 heures ou même qu'on a été testé positif au virus au moins deux mois plus tôt. Alors il y a Cédric O, le secrétaire d'État chargé au numérique, qui était l'invité de Mathieu Béliard ce matin sur Europe 1. Écoutez, il a donné des précisions.
Le pass, c'est un sésame vers la liberté. C'est-à-dire que là, on a prévu pour le 9 juin de rouvrir les événements, les grands événements jusqu'à 5000 personnes. Sans le pass, nous ne pourrions pas le faire. Donc on anticipe un certain nombre de réouvertures et je pense que tout le monde a envie de retourner dans des concerts, tout le monde a envie de reprendre une vie normale. Est-ce que c'est discriminant ? Mais absolument pas. Pour une bonne raison, c'est que ce n'est pas un pass vaccinal, c'est un pass sanitaire.
Le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, ce matin sur Europe 1. Vous êtes d'accord, c'est un sésame pour la liberté, ce passe sanitaire. On ne nous disait pas ça au départ, hein, Pascal Paugam.
Non, 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 on se souvient de la polémique créée par la proposition du Modem, hein, sauf erreur de ma part, qui avait évoqué pour la première fois, au moment des fêtes, la possibilité de créer ce passe. La classe politique tout entière s'était dressée au nom des valeurs et de la liberté individuelle. Aujourd'hui, effectivement, le discours a changé, mais tout simplement parce que dans l'opinion publique, elle-même a changé. C'est un petit peu le même phénomène que pour la vaccination. On voit bien que le principe de réalité fait que les gens, chacun s'aperçoit que pour retrouver une vie, un semblant de vie normale, eh bien, ce passe sera bien utile pour un certain nombre de choses. Et le discours officiel consistant à dire que ce passe ne constituera pas un droit d'accès qui différencie les Français, ce sont les propos qu'a tenu Emmanuel Macron dans son interview. Ça, c'est du verbatim politique, mais la réalité, c'est que oui, évidemment, ça va différencier les Français entre ceux qui sont porteurs du virus et ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est la réalité, il faut l'assumer. Et tant mieux si ça nous permet d'assister de nouveau à des concerts ou à des matchs de football.
Oui, sauf que Cédrico, vous aimez le foot. Cédrico, il disait ce matin sur Europe 1, quand vous tendrez votre passe, la seule chose qui apparaîtra à l'écran, ce sera du vert ou du rouge. Ça veut dire que personne ne saura vous avez été vacciné ou si vous avez un test PCR. Du coup, on peut pas mettre en avant l'atteinte vraiment aux libertés individuelles dans ce cas-là, Bruno Jeudy.
Oui, absolument. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Pascal Paugam. J'ajouterais que quand le débat est apparu en France et qu'il a d'abord été plutôt rejeté par la classe politique, déjà l'opinion, à mon avis, était déjà plus favorable. L'opinion a toujours couru devant cet aspect-là. Mmh. Mais surtout, on a été mis sous pression par nos voisins européens et notamment les pays destination touristique, la Grèce en tête, qui très vite, eux, ont mis en avant le pass sanitaire, qui est je dirais pas une création, mais qui a été très vite testée par les Israéliens, qui l'ont aussi mis en œuvre. Donc du coup, dans cette affaire-là, l'interview du président de la République était plutôt une évolution très, 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 très nette et très favorable sur le passe sanitaire, même si lui il a plutôt cherché à trouver le bon mot. Donc là, oui, on a le pouvoir qui... Je trouve qu'on est en train de là aussi de trouver une solution qui corresponde un peu aux Français et à notre débat public, à nos respects sourcilleux des libertés, vous le disiez. Donc je crois qu'on est en train de trouver, on est en train d'avancer vers une solution qui va pouvoir agréer à tout le monde. On ne peut pas s'en passer. La vérité, c'est qu'on peut. C'est très difficile de s'en passer. Il s'impose par les faits. Il se serait imposé aussi par le monde économique, par le monde touristique. Objectivement, c'est la pression extérieure, c'est le monde économique, touristique qui nous l'aurait imposé. Et donc, le pouvoir est en train de l'installer à sa façon.
Merci beaucoup. Merci
Pardon,
à tous les trois.
Merci. J'ai été trop long.
Merci les grandes voix du vendredi. Vous souscrivez aussi, tout va bien. Dans un instant, toute l'info sur Europe 1 avec votre journal de 19h. À tout de suite.